On n'est pas du monde, version 15 minutes, avec Antoine Malenfant et son invité.
Aujourd'hui à l'émission, on se sensibilise à la protection des sources d'eau potable avec Ariane Beauferré, notre chroniqueuse d'écologie intégrale. Au début du mois de mars, les deux paliers de gouvernement, le provincial et le fédéral, ont annoncé qu'ils investiraient près de 200 millions dans différents projets d'amélioration de l'eau potable dans la région de Québec et du Bas-Saint-Laurent. Alors, c'est dire que bon, la protection de l'eau, c'est pas des pacotiers, c'est important d'en prendre soin, c'est important de miser là-dessus. Et pour en discuter de la protection de l'eau en général, on a décidé d'en parler avec Ariane Beauferré, qui est une biologiste spécialiste des questions aquatiques, on pourrait dire, ou hydrauliques même. Ariane, c'est quoi une source d'eau potable?
Généralement, quand on parle de source d'eau potable, c'est de l'eau de surface, des lacs, des rivières ou de l'eau souterraine qui va être extraite, qui va être pompée, parfois traitée. Quand c'est de l'eau surface, c'est toujours traité, mais quand c'est de l'eau souterraine, parfois la qualité est suffisante. Généralement, c'est ça. Il y a d'autres sources qui existent dans le monde, mais qui ne sont pas, par exemple, utilisées au Québec, pas comme l'eau gelée, l'eau des glaciers, des icebergs.
Est-ce que ça pourrait être utilisé éventuellement?
Ça pourrait, mais ce ne serait pas rentable, parce qu'on a beaucoup d'eau déjà souterraine, puis on a beaucoup de rivières qui sont à portée de main. Mais par contre, dans des régions plus nordiques encore que nous, ou alors même dans des régions désertiques où ils vont prendre l'eau qui est disponible dans l'atmosphère ou l'eau salée qui vont dessaler, là parfois ça peut être rentable parce qu'il n'y a pas d'autres sources d'eau. Parfois même de l'eau contaminée, il y a des travaux là-dessus aussi. Prendre des eaux usées, la réutiliser pour faire de l'eau potable. Mais il y a des risques liés à ça, là. Et au Québec, on ne fait pas ça pour le moment.
Donc, tu viens de le dire un peu, on a de l'eau de bonne qualité, relativement à portée de main. Pourquoi faut protéger ces sources-là?
Ben, si on ne le fait pas, il y a toujours un risque quand même qu'elle se contamine ou qu'elle se raréfie. Quand l'eau est contaminée, c'est sûr qu'il faut la traiter. Il y a beaucoup d'exemples de contamination. Par exemple, il y a des pathogènes. Il y en a une qui est beaucoup connue, c'est Escherichia coli, par exemple. Des protozoaires intestinaux qui vont faire des épidémies de gastro-entérite, par exemple. Il y a aussi les nitrates, les pesticides qui proviennent de l'agriculture, les sels de déglaçage, les hydrocarbures des routes, des industries. Et des contaminants aussi qui se retrouvent naturellement dans les sols, comme par exemple peut y avoir de l'arsenic, du bore, du cyanure. Donc, il y a beaucoup de contaminants qui sont présents et le problème, c'est que le traitement, ça règle pas tout. Il y en a qui peuvent rester quand même. Et ça peut parfois peut y avoir des grosses, on appelle ça des éclosions de maladies d'origine hydrique. En gros, c'est des maladies qui proviennent de l'eau. Et ça peut être dévastateur. Il y en a une qui est la plus connue en Amérique du Nord en 1993 à Milwaukee. Il y a quand même 400 000 personnes qui sont tombées malades après avoir consommé
c'est
de l'eau.
C'est pas rien.
Et il y a une cinquantaine de personnes qui sont décédées. Donc, c'était une eau qui était traitée pourtant. Il y a d'autres cas aussi plus proches de nous à Walkerton en Ontario. Il y a eu 2300 malades en 2000, 7 personnes qui sont décédées. Là aussi à cause d'un contaminant, un pathogène. Donc, on ne peut pas se fier uniquement au traitement. Et quand il n'y a pas de traitement, comme c'est majoritairement le cas dans les petites municipalités en région, qui vont s'approvisionner plus en eau souterraine, si on ne protège pas la source d'eau potable, ça peut être vraiment, vraiment dramatique.
Ariane, mis à part les problèmes de santé évoqués, est-ce qu'il y a d'autres conséquences aux contaminations de l'eau potable?
Oui, ben les premières, c'est les conséquences économiques, évidemment, parce que si les gens sont malades et ne vont pas travailler, sont hospitalisés, prennent des médicaments, ben, ça coûte des centaines de millions de dollars annuellement au Canada. Il y en a qui vont même à dire juste que c'est des milliards de dollars chaque année, juste à cause des maladies d'origine hydrique. Ensuite, bah, le prix des infrastructures, c'est certain. Si vous avez une eau de mauvaise qualité qui rentre dans votre station, ça va vous prendre beaucoup de produits chimiques, ça va vous prendre des installations particulières. Est-ce qu'il va vous falloir des UV, de la filtration, de l'ozonation? Le traitement va changer selon ce qui rentre. Et il y a des municipalités qui n'ont pas cette chance de pouvoir se payer ces traitements. Par exemple, un exemple, à la Martre. C'est une municipalité de 250 habitants.
Ça en Gaspésie?
Oui, il me semble. Je l'ai perdu, mais oui, je pense que c'est en Gaspésie. Ça fait 17 ans qu'ils n'ont pas d'eau potable. Bon, ils font bouillir l'eau, mais c'est une eau brune qui arrive dans leur robinet, puis elle est pleine de coliformes fécaux. Ils ont enfin trouvé une source, mais ça va coûter 6 millions de dollars pour rénover toute leur structure. Donc bref, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est financé beaucoup par le Québec et le gouvernement fédéral, mais c'est tout le temps des fonds qui sont énormes et qu'il faut... qu'il faut débloquer pour des projets parfois qui vont être très localisés. Puis il y a des projets qui sont pas, qui seront pas financés dans les prochaines années parce que c'est beaucoup trop cher et il y a un fonds limité.
Elisabeth?
Ben, il y a d'autres enjeux. Moi, j'habite dans une municipalité qui vient de récupérer l'eau potable après 3 ans d'attente, je pense, là. Et puis, l'autre enjeu, c'est que les gens, il y a ceux qui font bouillir, ça consomme de l'énergie aussi, mais il y a tous ceux qui achètent de l'eau embouteillée. Puis
aussi,
là, c'est un autre impact environnemental qui est très important.
Un impact de plus, puis le stockage. On n'est pas tous égaux devant l'eau. Mais un autre enjeu qui est aussi grave, c'est que parfois, on est pris dans sa maison. On ne peut pas déménager parce qu'on ne peut pas la vendre parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Donc, même si on trouve parfois un meilleur emploi ailleurs.
Ben, prisonnier chez soi.
C'est ça, prisonnier complètement chez soi. Et parfois, ça va être juste sur une rue que c'est problématique. Comme quand on a une maison en zone inondable, que ce n'était pas en zone inondable avant, ben là, on est pris là.
Il peut y avoir aussi des conflits entre municipalités pour la question de la gestion de l'eau potable, non?
Totalement. Mais on en a dans la région de Québec, c'est assez connu en ce moment pour ce qui concerne l'approvisionnement à partir du lac Saint-Charles et de la rivière Saint-Charles. Les municipalités plus au nord ne dépendent pas de cette eau potable-là, aimeraient bien se développer plus, mais si on se développe plus, ben, ça peut mettre en danger la ressource en
ça
eau.
Ça met de la pression sur ces écosystèmes-là.
C'est ça. Et donc, ça peut contaminer l'eau et donc ça, c'est problématique par la suite pour ceux qui dépendent de cette eau-là, comme à la ville de Québec, par exemple.
Ça peut être quoi les solutions politiques? On a ici un conseil municipal de la ville de Stoneham, qui est dans la couronne nord de Québec.
Oui, j'écoute attentivement.
C'est quoi les voies de résolution dans ces conflits-là?
Ben, c'est sûr que j'ai bien écouté ce que tu as dit, puis tu as mentionné que c'est les municipalités qui veulent se développer plus. Il faut faire attention parce que ça dépend toujours des élus qui sont au pouvoir. T'sais, c'est qui veut se développer? Est-ce que c'est la population qui est déjà en place? Est-ce que c'est les promoteurs? Mm-hmm. Est-ce que c'est les élus? À Stoneham et au Lac-Beauport, présentement, il y a les deux discours s'affrontent.
Il n'y a pas d'unanimité
dans ça. Non, il n'y a pas d'unanimité au sein des deux conseils. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont défendre l'autonomie des municipalités, dans le fond, parce que là, c'est pas la ville de Québec, c'est la communauté métropolitaine de Québec qui est venue imposer un règlement là, qui encadre la construction pour protéger la source d'eau. Et puis, il y a beaucoup d'élus qui vont dire, ben là, ils nous enlèvent notre autonomie, dans le fond, législative, de la façon qu'on gère nos règlements. Mais moi, je considère, comme élu, qu'on est déjà beaucoup encadré par le ministère de l'Environnement, le ministère municipal, les MRC, la CMQ, et puis que c'est juste un quart de tour de vis de plus qui vient nous restreindre pour une bonne cause. Mais c'est sûr que il y a des promoteurs qui aiment pas ça quand je dis ça.
C'est sûr qu'on peut se développer, mais il y a aussi la question de comment est-ce qu'on se développe aussi au travers. Là.
Une question de rythme et d'étendue.
Oui, ça dépend. C'est des grosses questions d'actualité. Là.
Alors, au Québec, comment on organise cette protection-là, si on y va plus globalement?
Alors, généralement, c'est réglementé de plus en plus, surtout qu'il y a un règlement qui vient de sortir en 2014, le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Donc, il y a des périmètres de protection. Selon si c'est une source souterraine ou de surface, ce n'est pas les mêmes périmètres. Généralement, il peut y avoir à peu près 3 zones. Une première, c'est une aire de protection immédiate. Comme pour une eau souterraine, ça va être 30 mètres, où les activités sont très, très, très limitées. Toutes les activités en fait, susceptibles de contaminer l'eau sont interdites. Une aire intermédiaire qui, là, va dépendre plus de la migration de l'eau. Là, je parle encore d'eau souterraine, mais c'est encore un peu différent pour l'eau de surface par rapport au puits. Là, par exemple, on ne pourrait pas avoir de stockage de fumier, d'épandage, ce genre de choses. Puis une aire éloignée qui, là, va dépendre beaucoup des limites de l'aquifère ou alors de la rivière. Par exemple, en théorie, il ne pourrait pas y avoir de forage pour les hydrocarbures dans cette zone-là. Mais
pourquoi tu dis en théorie?
Parce que le règlement date de 2014. Hein, donc, il y a déjà des permis d'exploration qui ont été offerts. Donc, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup, beaucoup de municipalités en ce moment qui passent des règlements pour dire qu'on n'en veut pas des forages sur notre territoire pour protéger l'eau souterraine. C'est plus ou moins... C'est des règlements, mais est-ce que c'est... Si une compagnie qui a déjà le droit de venir exploiter là pourrait remettre en cause ce règlement-là, je pense que oui.
C'est une espèce de droit acquis ou de clause grand-père, c'est ça?
Je ne pense pas qu'on peut parler de droit. Je ne sais pas si on peut dire des droits acquis, mais c'est problématique.
Ah ouais.
C'est des problématiques qu'on voit beaucoup dans le sud avec l'industrie. qui vient s'installer, puis là, il y a une résistance de la population. Puis là, quand, tu sais, au Salvador, c'est arrivé, où là, le Salvador a retiré un permis d'exploitation minière.
Il y a des poursuites qui s'engagent inévitablement.
Puis là, il demande des sommes astronomiques. Qui mettent
oui, parce que même on engageait des fonds, puis on payait des permis avant, donc c'est sûr que c'est...
Se sentent lésés dans
oui,
ce processus-là.
C'est pas évident. Puis généralement, c'est pas des petites compagnies, là, on parle de compagnies qui sont sur la grandeur du territoire.
Qui ont beaucoup de moyens pour les convaincre.
Ouais, les avocats s'enrichissent. Dans le cas de, Stoneham, Lac-Beauport, les deux municipalités conjointement ont fait un règlement d'emprunt de 100 000 $ pour aller en cours contre le règlement de contrôle intérimaire, le RCI. Moi, je vois pas qui s'enrichit là-dedans. Là, je le vois,
oui,
c'est
ouais,
les avocats.
Justement.
Mais dans le sens, je vois pas qui gagne, là, à part les avocats, entre la CMQ et la municipalité.
Peu importe le règlement qu'il y aura au bout de ça.
Ouais. Ce qui est super cocasse là-dedans, c'est que la communauté métropolitaine de Québec, Stoneham et Lac-Beauport en font partie. Donc, moi, avec mes taxes, mes payeurs de taxes de Stoneham, je paye l'avocat de la CMQ et l'avocat de Stoneham qui se battent l'un contre l'autre. Là, c'est un peu aberrant.
Alors que des fois, on pourrait simplement plus se parler en amont. Uh-huh. Ça fait un moment déjà que la problématique du lac Saint-Charles, il y a un organisme, l'APEL, qui travaille là-dessus depuis plus de 20 ans. Donc, c'est pas nouveau. Hein.
C'est un dossier qui traîne.
Oui.
Alors, qu'est-ce que je peux faire avec mes humbles moyens de citoyen là, pour... dans mon quotidien, pour protéger l'eau potable, si on veut éviter des problèmes, comme tu disais, en amont.
Mais déjà, bon, c'est sûr que l'eau qui sort de la station d'épuration des eaux, donc les eaux usées traitées, c'est pas l'eau qu'on boit. Donc on pourrait se dire que peu importe ce que je mets dans les toilettes ou dans la douche, n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Puis parce que généralement, les usines de traitement d'eau potable, en plus, ne sont pas juste à côté de ces effluents d'eau usée. Ce n'est pas le cas dans certains cas, parce que dans le Saint-Laurent, il va y avoir beaucoup d'effluents qui vont s'y retrouver. Et on a des prises d'eau potable, beaucoup, dans le Saint-Laurent. Mais ce qu'on rejette quand même dans nos eaux usées, ça va influencer quand même, ça peut arriver à la station. C'est possible. Il y a beau avoir une filtration, que ce soit par le sol ou une distance, si on parle de rivière ou de lac, ça peut arriver. Et c'est des contaminations parfois qui vont être très nouvelles. Il y a des milliers et des milliers de produits chimiques qui sont produits chaque année et on ne sait pas tous s'ils sont filtrés correctement ou s'ils demeurent dans l'eau. Donc, je dirais limiter certains produits qu'on va utiliser au quotidien qui contiennent du pétrole, des produits cancérigènes, des hormones aussi parfois. La pilule contraceptive, c'est un bon exemple. Ça se retrouve directement dans les effluents et on montre que ça a un impact sur les écosystèmes, sur les poissons. Mais est-ce qu'il en reste aussi dans notre eau potable ? Ça, c'est pas évident. Donc, en utilisant moins de ces produits, déjà, on favorise un environnement plus sain pour la faune et la flore, pour la baignade, mais aussi en amont une eau de meilleure qualité, parce que l'eau qui va rentrer va contenir moins de produits chimiques. Si on a une belle pelouse, ça peut être une bonne idée aussi de ne pas mettre d'engrais chimiques, par exemple. Même si on n'est pas à côté d'un cours d'eau, l'une des contaminations principales qui va provenir des villes, c'est fou, mais il y a aussi beaucoup de nitrates, là, c'est pas juste les champs agricoles, parce que les gens vont fertiliser, puis ça se retrouve dans les égouts fluviaux, et ensuite ça se retrouve dans l'eau brute qui va servir pour faire notre eau potable. Le second problème avec ces engrais-là chimiques, c'est que ça va favoriser la prolifération d'algues, le vieillissement prématuré des plans d'eau. Ça a plein d'impacts, en fait. C'est pas juste sur l'eau potable. On peut vérifier sa fosse septique. Est-ce qu'elle est placée au bon endroit? Est-ce qu'elle est étanche? Est-ce qu'elle est vidée régulièrement? C'est aussi une grosse source de contamination. Puis finalement, je dirais, en ce temps de carême, si on prend, par exemple, du café ou un thé le matin, on pourrait décider qu'on l'offre en sacrifice, qu'on fait un petit jeûne, puis à la place, on pourrait boire un grand verre d'eau. Mais quand on va boire ce grand verre d'eau, c'est aussi pour le savourer puis remercier Dieu, parce que l'eau, on ne s'en rend plus compte parce qu'elle est très abondante, mais c'est une richesse, c'est nécessaire à toute vie. Et on peut remercier Dieu pour ceux qui l'ont trouvée, qui la traitent, qui font en sorte qu'elle se rende jusqu'à chez nous. Si on avait des diamants qui sortaient de notre robinet, c'est sûr que le diamant perdrait de la valeur, mais on n'en a pas besoin pour vivre au quotidien, alors que l'eau, c'est différent. Et donc, si on en prend soin, on ne devrait pas en manquer et avoir une bonne eau de qualité.
Ariane Beauferré, tu nous parlais de la protection des sources d'eau potable. Tu es doctorante en aménagement du territoire.
Oui.
Et on peut lire ta chronique « Petite économie » dans le magazine Le Verbe avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
C'était On n'est pas du monde, en version 15 minutes, avec Antoine Malenfant et son invité.